Allô femme, chronique du matrimoine breton.
Si je commençais à parler de toutes les femmes, il fallait que j'aille dans tous les secteurs, notamment par exemple le domaine ou politique ou littéraire, qui n'était pas un domaine pour les femmes vraiment à l'époque.
Nathalie Debroc est journaliste et écrivaine. En septembre 2019, sortait son livre « Ces femmes qui ont fait la Bretagne ».
J'ai fait ce livre « Les femmes qui ont fait la Bretagne » parce que tout simplement, il n'existait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi il n'existait pas, parce que ces hommes qui ont fait la Bretagne, les Bretons, on en a des piles et des piles sur eux, mais il n'y avait rien sur les femmes. Je me suis dit, je vais le faire, parce que c'est pas possible, c'est pas juste.
Politique, docteur, chef gastronomique, combattante, navigatrice, pour ce sixième épisode de L'île aux femmes, je vous propose de sortir du champ du matrimoine artistique pour aller prêter une oreille à la diversité des domaines dans lesquels les femmes se sont illustrées.
Écoutez, leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine, écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
A commencer par la politique. En Bretagne, la première femme élue s'appelait Joséphine Pencalet.
Joséphine Pencalet est la première femme élue en France et en Bretagne, a fortiori, en 1925, au temps où les femmes n'étaient ni électrices, ni encore moins éligibles.
Anne Gouirou est journaliste. En 2015, pour le 70e anniversaire du premier vote des femmes, elle réalise un documentaire sur la figure de Joséphine Pencalet. Mais très vite, Anne Gouirou fait face à un obstacle.
Tout de suite, j'ai été confrontée au problème des sources. En fait, je pensais partir de Joséphine Pencalet pour faire un petit peu le portrait aussi après de ces femmes qui avaient été élues en 1925 pour la première fois. Et donc, c'est là que j'ai réalisé qu'aucun historien n'était capable de me dire qui étaient ces 10 femmes, quels étaient leurs noms, dans quelles communes elles avaient été élues. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur Joséphine Pencalet, là, par contre, j'ai eu la chance de découvrir qu'une historienne s'était très récemment intéressée à Joséphine Pencalet.
Cette historienne, c'est Fanny Bunion. Je suis donc allée la rencontrer à l'université Rennes 2, où elle exerce.
Donc on arrive dans l'amphithéâtre Joséphine Pencalet, qui a été inaugurée en avril 2018, donc à l'université Rennes 2.
Alors Joséphine Pencalet, comment ça se fait qu'elle a pu être élue, alors qu'à cette époque, aucune femme ne pouvait voter ni être éligible ?
La loi prévoit que les femmes sont en effet ni électrices ni éligibles, et ce jusqu'en 1944. Mais le Parti communiste est décidé à présenter des femmes aux élections coûte que coûte, c'est une consigne du secrétariat féminin de Moscou, puisqu'à l'époque le Parti communiste est dans un fonctionnement satellitaire avec l'Union soviétique naissante. Bon. Et il y a une brèche dans le code électoral de 1884 qui est spécifique aux élections municipales. C'est-à-dire que c'est les seules élections dans lesquelles des femmes vont pouvoir se faire élire en 1925, elles sont une dizaine en France. Ce code électoral de 1884 prévoit que pour l'élection municipale, l'éligibilité des élus est vérifiée après le scrutin par la préfecture. Donc, rien n'empêche de les déclarer élus.
Pendant près de 6 mois, donc, Joséphine Pencalet siège au conseil municipal. Elle fait partie de la commission hygiène et santé, ainsi que de celle des affaires scolaires.
Puis un moment, elle disparaît. Elle est rayée du registre, il n'y a même pas mention dans le registre des délibérations municipales de l'annulation de son élection.
On peut dire en fait qu'elle a été en quelque sorte instrumentalisée par le Parti communiste.
Alors elle a été élue parce qu'elle est sardinière, elle a été élue parce qu'elle a participé avec plusieurs autres centaines d'ouvrières à une grande grève qui a touché les conserveries de la ville de Douarnenez à l'hiver 1924-1925. C'est une grève qui a été victorieuse, elle y a participé. Au même titre que d'autres femmes.
C'est pas plus démarqué que d'autres.
Elle ne figure pas sur les photographies du comité de grève, par exemple. Elle ne fait pas l'objet d'une fiche de surveillance de police spécifique, mais c'est une ouvrière parmi d'autres. Charles Tillon, qui a dirigé le mouvement de résistance des francs-tireurs partisans pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque, il est jeune permanent syndical, en plein dans l'effervescence du Parti communiste naissant, et dans ses mémoires, Charles Tillon explique que la difficulté n'était pas de faire élire une femme, mais de trouver une femme qui accepte de jouer les suffragettes. Il ajoute « Pas un seul ménage n'accepta ce sacrifice, mais une avenante veuve se dévoua ». Et Joséphine Pencalet, effectivement, elle est veuve. C'est le portrait type de la femme du peuple breton du début du XXe siècle. Donc elle a été un petit peu utilisée, tout en étant en même temps le symbole de quelque chose et d'une brèche, d'une avancée.
Jusqu'à sa mort, en 1972, Joséphine Pencalet disparaît totalement des radars médiatiques ou archivistiques. Ce n'est que plus tard, dans les années 1980, à la faveur d'une volonté politique portée par la mairie de Douarnenez, qui était de remettre en valeur l'histoire locale ouvrière des femmes, que Joséphine Pencalet sort de la brume. parfois un peu de manière excessive, présentée comme une héroïne, mais tout de même.
À 10 ou 12 ans, sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
C'est un regard neuf sur l'histoire des droits des femmes, c'est un regard neuf aussi sur la façon dont les femmes ont été éclipsées, et elle a été complètement éclipsée, elle est un peu passée comme une météorite en 1925, mais il n'empêche que c'est la première. Hein. C'est un nom important, je pense, à connaître, parce que de toute façon, l'histoire des femmes est souvent encore pleine de zones d'ombre. Le fait que des femmes aient été élues avant d'en avoir le droit, c'est un peu un ovni, c'est un peu un impensé absolu, donc c'est très bien qu'elle sorte un petit peu de l'ombre. Mais elle a gardé, au dire de ses descendants, beaucoup d'amertume de cet épisode pour elle, parce qu'elle a dit et redit, et c'est ce que m'ont répété ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ne votez jamais.
Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère.
La figure de Joséphine Pencalet nous invite donc à nous questionner sur ce qui fait que certaines femmes sont visibles, le reste ne le sont pas ou le redeviennent.
Écoutez le bruit de leurs sabots, écoutez gronder leur colère, écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Excusez-moi, est-ce que vous connaissez le nom de Marie-Louise Chevrel ?
Non, désolée.
Non,
absolument pas.
Non, désolée.
Non, je connais pas Marie-Louise Chevrel.
Pas du tout.
C'est censé me parler ?
En 2017, la ville de Rennes souhaitait féminiser ses noms de rue. Afin de recueillir plusieurs suggestions, le conseil municipal a contacté des personnes et groupes ressources. Marie-Louise Chevrel est la femme médecin qui a été proposée par l'équipe du Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes. Pour partir sur les traces du matrimoine médical, je me suis rendue dans ce lieu assez atypique, situé près de l'Hôtel Dieu, à Rennes.
Bien, nous rentrons dans le conservatoire.
Annick Lemescam, la présidente de l'association, m'a fait la visite.
Nous arrivons ici dans l'espace cardio. Donc on a ici un matériel que les malades ont connu, les pacemakers, et puis bien évidemment... On ne peut pas parler de chirurgie cardiaque sans citer le premier greffeur, Christian Barnard. On doit aussi citer, me semble-t-il, Alain Carpentier, qui a beaucoup travaillé sur la problématique des valves. Et Norman Shumway était un Américain bien connu. C'était des personnages, tous hommes, bien sûr. La vitrine de gynéco.
Des irrigateurs déguisés. C'était un homme aiguisé.
Et si on va du côté de l'anesthésie, c'est pareil. Les ouvre-bouches, les abaisse-langues, ils ont des noms masculins, ils n'ont pas des noms... Il n'y a pas de nom féminin.
Ici, le plus ancien objet que vous possédez, il date de quand ?
1734. D'accord. Une clé de Garangeau. Une clé de Garangeau pour arracher les molaires sur les places publiques.
Et donc de 1734 à 2020, ouais. Vous n'avez pratiquement aucun objet qui a été conçu par une femme.
Si je passe en revue, ceux qui portent des noms, c'est des noms masculins.
Pas de matrimoine médical, vraiment ? J'ai demandé à Nathalie Debroc, l'autrice du livre « Ces femmes qui ont fait la Bretagne », si les images de religieuses autour de chirurgiens ou les blouses d'infirmières étaient les seules traces des femmes dans l'histoire de la médecine.
Évidemment, il y a eu des femmes infirmières, etc. Mais des femmes visionnaires dans ce domaine-là, je n'y pensais pas du tout, j'aurais jamais pensé. Il y en a une qui m'a sidérée, et je cite très souvent, c'est Marie-Marguerite de Lamothe-Piquet, qui la première femme française à être ophtalmologue. Et alors on pourrait se dire, bon ok, d'accord, mais en quelle année ? Allez, 20e siècle ? Pas du tout. 1753, c'est incroyable. Elle opérait de la cataracte et des fistules aux yeux. Et elle avait fait un peu d'études, mais elle n'était pas allée jusqu'au diplôme. Mais on lui donnait l'autorisation d'exercer la médecine, puisqu'elle le faisait à titre gratuit. Et au départ, elle l'a fait, comme elle le disait, pour les indigents. Et elle les recevait chez elle, elle avait transformé son château en hospice pour les pauvres et je crois qu'elle faisait 800 repas par jour pour eux. Enfin, c'était complètement fou ce qu'elle... voilà, c'était un vrai don de sa personne et quand j'ai vu qu'elle opérait à l'époque... Mais c'est incroyable qu'elle ne soit pas... Enfin, elle devrait avoir un boulevard.
Et Marie-Marguerite de Lamothe-Piquet est loin d'être la seule femme à avoir œuvré en médecine. On pourrait également évoquer Angélique du Coudray, qui enseignait l'art d'accoucher dans les campagnes bretonnes et qui aurait ainsi sauvé près de 5000 vies. Ou encore Marie-Louise Chevrel, première femme interne des hôpitaux de Rennes.
On arrive dans l'espace laboratoire.
Retour avec Annick Lemescam au CPHR.
J'aurais envie de vous parler d'une femme médecin qui a marqué la médecine à Rennes. Il s'agit de Madame Chevrel. Madame Chevrel faisait de l'anapath, anatomie-pathologie, et puis Madame Chevrel s'est fait remarquer très rapidement parce qu'elle était la première interne femme d'Ille-et-Vilaine. Elle s'est fait remarquer aussi parce qu'elle a très vite créé des revues médicales. Elle avait créé le laboratoire d'Anapath au CHU et au centre Jeanne Marquis. Elle faisait partie de tous les conseils d'administration des différentes écoles médicales, donc elle était bien connue. C'était une enseignante d'université qui était très redoutée. Elle avait une approche assez austère et elle avait une certaine autorité. Les gens la craignaient un peu. Elle a participé à la création de l'Opéra de Rennes. Elle a créé une école de danse. Donc Madame Chevrel, c'est quelqu'un quand même qui a marqué.
Qui a marqué et pourtant. Comme entendu plus tôt, difficile pour les Rennaises et Rennais de l'identifier. D'ailleurs, pour revenir à cette histoire de féminisation des rues rennaises, le nom de Marie-Louise Chevrel n'a pas été retenu pour une rue. Le conseil municipal a choisi de donner son nom à un bâtiment du CHU, faisant de lui l'un des 22 établissements publics portant un nom de femme dans la ville de Rennes. En 2018, à Rennes, sur 895 rues, sans compter les boulevards, allées, squares bien entendu, seulement 137 portaient le nom d'une femme. En France, seulement 4% de rues portent le nom de femme. Après le pourcentage de noms de femmes dans l'espace public, connaissez-vous celui des femmes dans les cuisines des grands restaurants gastronomiques? En 2010, les femmes chefs représentaient 1% des chefs étoilés en France. Petit progrès en 10 ans, en 2020, elles représentent désormais 5%.
Bonjour.
Pour parler de gastronomie, j'ai poussé la porte du restaurant Racine à Rennes. La chef Virginie Giboire a remporté l'étoile au Guide Michelin en 2019. Avec Nolwenn Kaur à la Pointe Saint-Mathieu, elles sont les deux seules femmes chefs étoilées de Bretagne.
Donc vous êtes au restaurant Racine, je suis Virginie Giboire, la chef, et nous sommes ouvertes depuis le 5 septembre 2017, donc ça fait 3 ans.
Virginie, vous avez reçu votre première étoile en janvier 2019 et vous faisiez partie des 27 femmes récompensées par cette distinction.
Oui, c'est ça, c'est en fait le Guide Michelin remet en jeu tous les ans les étoiles et du coup, je crois qu'en 2019, on devait être 7 ou 8 à avoir décroché notre étoile. Et donc tout le reste, à toutes les autres femmes à conserver, que ce soit une, deux ou trois étoiles comme Anne-Sophie Pic.
Vous, en tant que chef, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour entrer dans ce milieu?
En fait, il y a beaucoup de femmes chefs, mais c'est pas forcément dans des restaurants qui sont plus dans la gastronomie. Je sais qu'à Rennes, il y en a énormément. Il y a Blandine Lucas qui a le restaurant L'Essentiel, il y a Petite Nature, elles sont deux sœurs. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de femmes chefs, mais en fait, c'est dans un autre style de restauration. C'est pas reconnu, mais en fait, elles sont toutes là aussi, quoi.
Là, vous dites que donc il y a plus d'hommes récompensés dans des restaurants type gastronomique. En revanche, est-ce qu'il y a plus de femmes qui tiennent des restaurants, comme vous venez de dire, vegan, un peu plus type cantine?
C'est vrai que la cuisine gastronomique reste quand même... les ambiances de cuisine restent très masculines. Il faut faire sa place, il faut montrer qu'on vaut aussi bien qu'un homme, il faut porter ses casseroles toute seule. C'est vrai que plus on monte, en fait, et les femmes peut-être sortent de cette cuisine parce que trop dur, peut-être psychologiquement aussi, parce que quand on est une femme toute seule, bah, il y a des petits mots, des trucs. Bon.
Tiens, toujours le même processus d'invisibilisation des femmes, non? Présentes sur les bancs des écoles, les femmes, en gastronomie, comme dans n'importe quel autre domaine finalement, subissent le même système de domination masculine. Pourtant, dans les médias, on parle de plus en plus souvent de féminisation des cuisines.
C'est vrai que j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de femmes. Là, on déménage dans une semaine. Du coup, on recrute des personnes et en fait, je ne reçois que des CV de femmes. Alors, je pense que c'est aussi parce que je suis une femme chef. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de CV de femmes. Et on est actuellement 4 filles en cuisine. Après, quand on a 20 ans, c'est 20 ans, 25 ans, c'est facile. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que vraiment, dès qu'on commence à avoir des enfants, c'est compliqué. Nous, quand on était à Paris, mon conjoint, c'est lui qui avait le gros salaire. Donc, c'est lui qui continuait à travailler. Et moi, j'ai un peu bloqué ma carrière parce que, ben, à 18h, j'avais la sortie de la crèche, quoi.
Moins payé, moins aidé, moins récompensé. Un processus qui pousse les femmes à s'évaporer tout doucement. Car, encore une fois, dans l'histoire, des femmes chefs, on en connaît peu. En Bretagne, il y en a tout de même une. Elle s'appelait Mélanie Rouat. Elle tenait un petit café-épicerie dans la commune de Rieck-sur-Bellon, dans le Finistère. Un soir de 1919, une troupe d'actrices et d'acteurs débarque chez elle. Les artistes sont littéralement conquis par ses plats. De retour à Paris, ils font ses louanges et bientôt, c'est tout le gratin parisien qui arrive dans le Finistère. Mélanie Rouat ouvrit alors un restaurant, puis un deuxième, puis un hôtel. Une vraie femme d'affaires. Mais se serait-elle permise de réaliser tout cela si le hasard n'avait pas si bien fait les choses ?
inutile d'épiloguer sur les idées reçues qui veulent que les chefs soient des hommes et les femmes des cuisinières, écrit Nathalie de Broc dans un chapitre de son livre intitulé « Gourmande ».
J'ai mis un peu trop d'eau. Déjà, quand on fait sa pâte, il faut l'aimer.
Il est vrai qu'en Bretagne, dans l'imaginaire collectif, on se représente facilement la longue tradition de crêpières de garage. Ces mamies qui font sauter leurs crêpes pour le plaisir de toute la famille. D'ailleurs, la personne qui a donné envie à Virginie Giboire de faire de la cuisine, c'est sa grand-mère.
Quand j'étais petite, maman travaillait le mercredi matin, et donc du coup elle nous déposait chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle faisait des recettes de cuisine avec moi le matin, et mon frère faisait des maquettes d'architecture avec mon grand-père. Et en fait, toutes les semaines, on faisait une recette, et du coup, elle me les faisait écrire pour l'orthographe. Donc ça jouait sur deux fronts déjà. Et c'est vrai que je me suis pas posé d'autres questions. J'ai toujours été gourmande et tout, et ça a toujours été une évidence. J'ai jamais réfléchi à un autre métier.
Est-ce que vous vous souvenez aussi des plats que cuisinait votre grand-mère ?
Ma grand-mère, à Noël, elle faisait une spécialité différente tous les ans. Donc c'était plutôt des plats de partage, où c'était la grosse cocotte, des terrines. Je sais qu'à Noël, elle a fait un bacon-off. Elle essayait à chaque fois de faire des spécialités un peu différentes et des plats, mais c'est toujours l'esprit de famille, en fait. L'esprit un peu de partage et tout. Elle cuisine toujours à bientôt 90 ans.
Et vous, votre spécialité à vous, c'est quoi ?
J'ai pas de plat signature. C'est vraiment une cuisine où on a le produit et on travaille autour, donc ça change tout le temps.
Et là, pour ce soir, qu'est-ce que vous cuisinez ?
Là, je suis en train de faire une purée de courgettes.
Je ne coupe pas le doigt.
Non, non.
On retient souvent chez les femmes celles qui ont été hors la loi. Alors celle-là, elle frappe l'imagination. Elle, on parle d'elle. Par exemple, on va parler de Marion Dufaouët.
Comme l'explique Nathalie de Broc, des femmes hors la loi, des affranchies, on en connaît. Mais les femmes se sont-elles engagées ? Ont-elles pris les armes lors de la Révolution, par exemple ?
Alors, en effet, on trouve très peu de traces de femmes en armes dans les affrontements de la période révolutionnaire.
Solène Mabot est universitaire. Elle a mené une recherche sur l'engagement des Bretonnes pendant la Révolution française. Alors, je lui ai posé la question qui me taraudait l'esprit. Des femmes en armes, ça a dû exister, non ?
On a quelques personnalités de Bretonnes qui émergent comme des combattantes. On peut déjà distinguer deux niveaux très différents. Le premier, ce sont des femmes qui s'engagent comme militaires dans l'armée de la République, sachant qu'elles n'en avaient pas le droit. Les femmes sont traditionnellement éloignées de la guerre.
En effet, en 1793, un décret rappelle que les femmes doivent sortir des armées, sauf quand elles y assument des rôles traditionnels comme cantinières. Néanmoins, quelques femmes ont combattu dans les rangs de l'armée. Une Bretonne est d'ailleurs connue pour cela, Marie-Angélique Duchemin, la première femme à avoir reçu la Légion d'honneur.
Elle est fille de soldat, épouse puis veuve de soldat, donc elle est née à Dinan et elle a grandi auprès de la troupe. Elle a mené une vie de garnison et s'est engagée donc dans les armées de la République où elle a combattu, elle s'est illustrée dans des combats et elle sera finalement reçue aux Invalides parce qu'elle est blessée lors de sa carrière militaire. Et recevra au seuil de sa vie la Légion d'honneur, donc au début du Second Empire.
Pour mettre les choses en perspective, à l'échelle nationale, on compterait moins d'une centaine de femmes à avoir combattu dans les rangs de l'armée régulière. Mais est-ce que les femmes ont pris les armes autrement qu'en s'engageant dans l'armée ?
À côté de ce champ des engagements armés, donc dans les armées régulières, des femmes ont pu prendre les armes autrement en s'engageant dans des affrontements plus locaux. Donc, par exemple, en Bretagne, la Bretagne dans la Révolution est traversée par une situation de guerre civile larvée, avec des bandes de chouans, essentiellement composées de paysans, qui prennent les armes contre la République. C'est une situation de guerre civile qui va durer plusieurs années, de 1794 à 1800 environ. Et dans ce cadre-là, des femmes participent à cette guerre civile. Rarement toutefois dans la position de combattante. Donc on a quelques cas de femmes qui ont pris les armes, mais qui restent des figures exceptionnelles. On a par exemple la mention d'une certaine Victoria, aussi nommée dans les sources le capitaine Victor. On sait très peu de choses sur elle. Et cette femme, qualifiée par les autorités de femme féroce, reste très largement mystérieuse. À côté de cette femme, on a des cas épars de femmes de milieu populaire qui ont pris les armes, soit du côté des chouans, soit à l'inverse, du côté des républicains. Et par ailleurs, on a aussi des cas de femmes qui ont pu prendre les armes de manière exceptionnelle lorsque leur village ou leur commune donc, était attaqué.
Une femme est restée dans les mémoires, Marie Collin.
C'est une jeune paysanne, elle vit dans la région de Fougères, dans la petite commune de Rimoux. Et lorsque la population se trouve assiégée par une bande de chouans en 1795, elle aurait, selon la mémoire locale, participé, les armes à la main, à repousser donc cette attaque de chouans. Elle aurait été accompagnée de deux autres femmes qui auraient pris les armes à ses côtés.
Et 100 ans plus tard, à l'occasion d'un banquet patriotique, une image la représentant portant un fusil orne le menu.
Donc dans ces situations exceptionnelles où il s'agissait de défendre sa communauté face à un danger, prendre les armes pouvait être valorisé pour une femme et rester ainsi dans les mémoires comme une attitude héroïque.
Dernière question, si les femmes étaient tant écartées du combat, avec quoi se battaient celles qui parvenaient à arriver sur le front ?
Les femmes vont être armées essentiellement d'armes très rudimentaires, elles sont armées de pierres et presque que de cela, tandis que les hommes, eux, peuvent être dotés d'autres types d'armes, des bâtons bien souvent, mais aussi des fusils. Même dans la révolte, où là on est dans un cadre de subversion du quotidien, de l'ordinaire, les femmes vont rester éloignées des armes véritablement offensives que l'on peut voir aux mains des hommes. Donc on constate quand même un éloignement des armes vraiment profond que les bouleversements de la Révolution ne remettent pas tant que cela en question.
Les rôles de l'ombre, les rôles annexes joués par les femmes lors de la Révolution, comme loger, nourrir les combattants, mais aussi être guide ou livrer du courrier, n'ont pas laissé la même trace, ni dans les archives, ni dans l'histoire, que les rôles combattants assumés par les hommes. Et évidemment, même si quelques figures se démarquent, cet éloignement du champ des combats a largement participé à invisibiliser la place des femmes dans la chouannerie.
Si je n'étais pas portée par la mer, de temps en temps je serais morte. Sur la terre ferme, vous mesurez l'obstacle. En mer, vous ne mesurez rien.
La Bretagne a produit des générations d'aventurières, d'exploratrices, de curieuses fascinées par l'ailleurs qui ont sillonné les mers et les continents. Anita Conti, dont vous venez d'entendre un extrait lu par Nathalie Debroc, en est l'une d'entre elles.
Première femme océanographe qui n'était pas bretonne mais qui a passé la plus grande partie entre ses expéditions en Bretagne, qu'elle aimait d'un amour fou. Et elle a été aussi la première lanceuse d'alerte pour l'état de l'océan, pour la surexploitation des océans et des provisions de l'océan et des ressources de l'océan. Mais lanceuse d'alerte trop tôt, encore une fois. Maintenant, on l'entend vraiment, mais il y a eu un moment dans les années 70 où c'était pas du tout, mais vraiment pas à l'ordre du jour, donc on ne l'a pas écoutée. Et je pense qu'on ne serait pas dans l'état dans lequel on est au point de vue des océans et de la ressource si on l'avait écouté à temps.
Une femme, aujourd'hui, continue d'alerter sur l'état écologique de notre planète. Il s'agit de la navigatrice Marie Tabarly, qui a lancé le projet Élémentaire il y a maintenant 4 ans. C'est à Ouessant, à bord de son voilier le Pendixis, que je l'ai rencontrée. Bonjour Marie Tabarly, merci de me recevoir à bord du Pendixis. Ce bateau, vous l'avez choisi pour réaliser un projet qui s'appelle Élémentaire. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la création de ce projet ?
Ouais, parce que je faisais complètement autre chose dans ma vie, j'étais comportementaliste équin, et puis là j'avais attaqué une sorte de tour du monde équestre où j'allais à la rencontre des grands maîtres écuyers, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et en même temps, voilà, j'avais besoin de changer de vie, j'avais un bateau qui avait besoin de naviguer, je voyais qu'il y avait une urgence, comme tout le monde, on a tous eu un sentiment d'urgence, je pense, enfin comme beaucoup de personnes. Je voulais pouvoir m'engager et utiliser mon patrimoine au profit de grandes causes sociétales. Et là du coup, on a vraiment réussi à faire quelque chose où on apporte du contenu, on apporte de l'art, on apporte de la joie et en même temps de la réflexion. Et en même temps c'est positif, mais en ramenant, en posant quand même les pieds dans le plat et en posant quand même des problèmes.
Je vais m'occuper de mon bloc parce que j'ai rien emballé. Quelqu'un peut venir me remplacer ?
Ouais.
Est-ce que vous avez beaucoup navigué avec des femmes ? Vous, c'est majoritairement des équipages d'hommes ?
Sur mon parcours, non, j'ai essentiellement navigué avec des hommes, ça c'est sûr. Ici, on a quand même pas mal de filles à bord, mais c'est vrai qu'en marin, j'en ai pas beaucoup par contre. Je sais pas ce qui manque encore pour avoir le même circuit de formation et les mêmes compétences et les mêmes puissances. Pour l'instant, il y en a, mais pas encore suffisamment, quoi. Une femme en solitaire peut naviguer sans problème, parce qu'elle va construire tout le bateau autour d'elle. Quand des petits gabarits comme Hélène MacArthur ou Karine Fauconnier, avec même Clarisse Kremer maintenant, et ça, bah voilà, elles construisent tout un bateau autour d'elles et elles s'en sortent parfaitement bien, il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire, c'est quand même la voile et l'équitation, c'est les deux sports qui sont mixtes, hein, jusqu'à très haut niveau. C'est absolument possible.
Qui vous aviez comme modèle quand vous étiez petite ?
Beaucoup, beaucoup Kersou, forcément. Florence aussi, beaucoup, partout. Ouais, surtout eux, enfin, je passais pas mal de temps avec eux. Ouais.
Est-ce que vous avez eu du mal à vous défaire de l'image de la fille de Éric Tabarly ?
Ah bah, je crois que ça le sera toute ma vie. De toute manière, on me raccroche toute ma vie à ça. Donc,
Même maintenant, avec votre projet élémentaire que vous portez toute seule.
Ah, je pense que je pourrais être prix Nobel de ce que vous voulez, résoudre la faim dans le monde et inventer un vaccin contre le sida et tout ça. Je serais encore la fille d'eux.
Que ce soit en politique, en médecine, en gastronomie, en combat, en navigation, les femmes sont toutes victimes d'invisibilisation. Elles paraissent toujours moins présentes. Pourtant, elles sont bien là, nous l'avons entendu. Et je laisse le mot de la fin à Nathalie Debroc.
J'étais très révoltée quand j'ai commencé à faire ce livre-là, parce que je me rends compte que c'est comment a-t-on pu oublier ? On les a volontairement étouffées. Il n'y avait aucune raison qu'elles ne sortent pas de l'ombre, elles aussi. Ces femmes, elles ont été très enfonceuses de portes, et de pas de portes ouvertes. Dieu sait si elles étaient fermées, ces portes.
L'île aux femmes, chronique du matrimoine breton, une série de reportages réalisée par la Corlab en partenariat avec HF Bretagne. À réécouter sur corlab.org.